Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être avec vous. Vous écoutez CHU FM. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous, 89.1.
Alors, c'est l'émission Afrique Plus qui commence. Aujourd'hui, c'est samedi le 21 juin, samedi 21 juin 2008. On commence l'émission de cette façon et puis on va vous présenter le programme. Pour diriger un précaré, il suffit généralement d'être membre du personnel indigène de l'administration coloniale. Adubé par la métropole coloniale, très attentif aux intérêts locaux de la puissance coloniale, veillez scrupuleusement à l'épanouissement des dix intérêts, y compris au détriment des populations autochtones, grâce à l'application servile des accords de coopération contractés à l'insu des citoyens africains. En échange de quoi, le docile filleul africain bénéficie de la tutelle militaro-politique de la métropole. Le cas du Tchad l'explique bien. Toujours prompt à intervenir pour sauver le régime autoritaire, y compris et surtout pour le malheur des populations locales africaines. Quelques dirigeants africains avisés ou opportunistes ont bâti leur fortune politique sur une bonne connaissance de cette conjoncture, dont ils ont su tirer le plus grand parti, en cas emblématique étant celui de Félix Houphouët-Boigny. D'autres ont payé de leur vie pour s'en être accommodés. Patrice Lumumba, c'est quelque chose. Amani Diori au Niger, Thomas Sankara au Burkina Faso. D'autres encore ont vu leur régime périclité parce qu'il n'était pas conforme. Mariam Gwabi, Sékou Touré. Toutefois, dorénavant, la société colonialocratique, c'est un nouveau mot, n'est plus viable, étant devenue obsolète, difficile, tutelle militaro-politique d'un régime autocratique gravement affaibli par les finesses politiques d'ajustement structurel et leur cortège de misère. Des investissements publics en matière d'éducation, santé, emploi, etc. Difficile également de sélectionner du personnel politique docile dans une population africaine presque entièrement renouvelée par son rythme naturel de croissance démographique particulièrement rapide. Depuis la signature de fameux accords de coopération avec la disparition progressive des générations formées par l'école coloniale pour servir la colonisation et ses oripeaux. De plus en plus, ces difficultés de recrutement sont aggravées par la montée de la xénophobie institutionnalisée dans les pays colonisateurs ou occidentaux, où les indigènes sont de plus en plus malmenés par des politiques très coercitives, voire racistes contre les immigrants africains. Une fois rentrés ou expulsés en Afrique, ces derniers sont fortement dissuadés de se faire les ambassadeurs zélés des pays étrangers qui les ont si mal reçus, souvent avec haine ou mépris. Voilà ce que je venais de vous lire. Vous pouvez le trouver sur www.afriquelibre.com. Ce sont les Africains qui ont encore la colonne vertébrale droite, comme nous aimons à le dire à notre émission. Alors, pour l'émission de ce matin, 60 minutes en Afrique, l'Afrique aura porté son regard, toute l'Afrique va nous amener en Europe. On va commencer par la fin, j'aime bien, en Suisse. On ira voir Monsieur Jules Bagalois, qui est un doctorat en sciences économiques, qui va nous parler du Swahili. Une fois n'est pas coutume, le Swahili est-elle une langue d'occupation? Le Swahili est-elle un danger pour la République démocratique du Congo ou la région des Grands Lacs? Et aujourd'hui, c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique en Europe et peut-être ici aussi. Alors, c'est bien d'allier l'utile à l'agréable. Nous allons parler à un musicien, un artiste africain qui est basé en France. Il est à Paris. Et Bruno, comment est-ce qu'il s'appelle?
Crin Solo.
Voilà, et Crin Solo. Et en introduction, on va d'abord passer une chanson introductive. C'est en exclusivité ici à notre émission Afrique Plus. C'est le titre de la chanson, c'est Ndounia, tiré du dernier album de Madame Rokia Traoré, que j'aime bien, comme dit Bruno.
Voilà. Tchamantché.
Et Tchamantché, voilà. Restez là.
Donc, chan don lo ma bon yon kon fe fene. Hela tele befo man yon ako tele ko bane tele befo nitsa dia tele ko ben tele befo ben lale ya tele ko jamba ton. Oh, jamba to, jambi to bilaka, sini lakoto.
Jocelyn, située au 487 rue Rideau, vous offre une multitude de services pour vous préparer à affronter les rues d'Ottawa. Jocelyn offre 25 heures de cours en classe, 10 heures derrière le volant et beaucoup plus, tous à un prix imbattable. Pour plus d'informations sur les classes, appelez le 613-789-7878.
Jocelyn Elinor est maintenant un agent CAM Transfer. Si vous voulez envoyer de l'argent à Haïti, appelez Jocelyn au 789-7878.
C'est 7h12, 5 minutes en Afrique. Bruno.
Alors, par quoi on commence?
Par le commencement.
Guinée News, Guinée-Conakry Info. Cette semaine, pendant que la Guinée attendait son nouveau gouvernement, militaires et policiers s'opposaient. Bilan, pillage et destruction dans les maisons. Côte d'Ivoire, Soro est-il débordé? À l'évidence, sans doute. Fraternité Matin, Soir Info. Division interne chez les anciens rebelles, manifestations violentes dans les rues. Est-ce que Soro est l'homme de la situation? Toujours en Côte d'Ivoire cette semaine, lutte anticorruption et règlement de compte. Henri Amouzou, le chef du conseil de gestion du fonds de développement des producteurs de café cacao, en fait le patron de la filière cacao si vous voulez, a été déféré à la MACA. MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Détournement de fonds, abus de confiance, abus de biens sociaux. C'est Gbagbo lui-même qui a dû céder aux pressions des bailleurs de fonds, comme s'il y avait des gens, comme dirait Sankara, dont le bâillement suffisait à apporter le développement chez les autres. Les généraux ougandais se posent beaucoup de questions par rapport aux exactions qu'ils ont commises en RDC durant les campagnes militaires. Et effectivement, ils ont de quoi s'inquiéter, puisque Bemba, ancien vice-président, vient d'être déféré par le TPI. Un petit tour au Mozambique avec l'ancien président de l'Assemblée municipale de Maputo, qui vient de fonder une société d'extraction de pierres précieuses et semi-précieuses baptisée Preciosa. Comme quoi la politique mène à tout bien souvent. BFT en Tunisie. Donc le gouvernement tunisien a décidé en fait de vendre de gré à gré sa participation de près de 78% dans la banque franco-tunisienne, donc la BFT, à trois sociétés locales. Espérons que ces trois sociétés locales ne deviendront pas, comme vous savez bien souvent toujours et encore, toutes plus ou moins proches du palais de Carthage. Illusion perdue de l'eau fort au Tchad, toujours et encore les mêmes problèmes. Déby va-t-il enfin partir un jour? Je reviens en Côte d'Ivoire avec Gbagbo qui s'est décidé cette semaine à vendre ce qu'on appelle les joyaux d'Oufouette. Donc une maison de vente en Europe a décidé cette semaine donc de mettre en vente le...
La maison, la villa de Oufouette-Boigny.
Oui, avec la collection d'objets d'art qui vont avec.
Et c'était, est-ce que c'était en Afrique ou c'est en Europe, en Occident?
L'hôtel particulier de Monsieur Oufouette-Boigny, bah, c'est avec l'argent des Africains, voilà. Des Ivoiriens. Espérons qu'une partie de cet argent va leur retourner après cette vente. Pierre Falcon, ce fameux, moi je l'appelle un grand brigand, il va rebondir à Pékin, puisque après le procès de l'Angola Gate qui va bientôt s'ouvrir, bah, ce dernier est en train de faire de bonnes affaires à Pékin. Agadem, retour donc au Niger, la China Petroleum, National Petroleum Corporation a réussi donc à signer ce fameux contrat pour le brut qui va sortir d'Agadem. Si les Chinois respectent le contrat, c'est-à-dire au Niger, il va y avoir une raffinerie. Non seulement on va extraire leur pétrole, mais en plus ils vont avoir une raffinerie. Ce serait un grand changement et espérons que ça donnera des idées aux autres. Pour finir donc aujourd'hui, on va sans doute passer très bientôt à l'interview avec Krin Solo.
Qui est déjà avec nous en France au Nord. Il est déjà depuis Paris. Il est au téléphone avec nous. Bonjour King. Bonjour Krin. Est-ce que vous êtes avec nous? Krin, est-ce que vous nous écoutez? Krin, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense qu'il est là. Il est là.
Allô?
Il y a quelqu'un.
Voilà.
Oui, voilà. Vous êtes en direct, monsieur Solo. Donc, pour l'interview Hello. Aujourd'hui.
Oui, comment vous allez? Krin, est-ce que vous êtes avec nous? Il est là. On va aller chercher tout de suite.
D'accord. Donc, pour l'interview aujourd'hui, l'objectif, c'est de connaître, en fait, en tant qu'artiste, monsieur Solo, et d'établir un lien entre sa musique et son engagement, donc les sources de son inspiration musicale, son objectif dans la musique, et puis finalement ses rêves de concert. Krin Solo est un artiste burkinabé. Donc là, on a plusieurs chansons qu'on va sans doute passer tout à l'heure en extrait. Et puis là, on va passer aux questions, si Monsieur Solo est prêt.
Oui, Krin, vous êtes avec nous, c'est ça? Krin, vous êtes avec nous.
Allô?
Krin Solo, est-ce que vous êtes là? Alors, on va aller chercher. On va aller chercher.
Vous déménagez ou vous voulez envoyer de la marchandise? WIB Cargo Express se spécialise en dédouanement, en transport de marchandises et en logistique. WIB offre un guichet unique pour tous les services de déménagement de l'origine jusqu'à la destination finale, ainsi que des services d'emballage, d'entreposage et d'assurance. Avec un service axé sur les demandes de la clientèle, vous pouvez compter sur WIB Cargo Express pour vos besoins en services d'expédition à l'échelle mondiale par voie aérienne, maritime et routière. Pour plus de renseignements, visitez le web-inc.com ou appelez le 613-828-8381.
Voilà, alors, il est 7h18, Monsieur King Solo, vous êtes avec nous depuis Paris? Est-ce que vous nous entendez maintenant?
Je vous entends faiblement.
Ok, maintenant ça va. Alors, parfait.
Dites-nous, King Solo, pourquoi ce diminutif? Est-ce que c'est votre nom de scène?
Queen Solo, c'est un nom composé. Queen, c'est un nom traditionnel. Et Solo, c'est le diminutif de Suleiman. Et ça constitue le nom de scène, effectivement, les deux.
D'accord. Comment définissez-vous votre musique?
Ma musique, je l'appelle l'afro-pop. C'est de l'afro-pop parce que la base, c'est de la musique traditionnelle africaine. Et puis bon, c'est habillé de pas mal d'influences modernes, quoi.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est la fête de la musique chez vous?
Aujourd'hui, c'est la fête de la musique, oui.
Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle on a voulu vous avoir à l'émission africaine.
Eh bien, c'est très, très, très sympathique.
D'accord. Vous chantez dans plusieurs langues. Pourquoi? Enfin, pourquoi aucune chanson en français? Est-ce que c'est lié à l'histoire coloniale ou est-ce que c'est un choix musical?
Elle est bonne, cette question.
Si on veut, oui, mais parce que ce que j'ai dit dans mes chansons, ça s'adresse plus à des personnes qui ne comprennent pas vraiment le français. Donc, je préfère chanter dans les langues nationales afin que le message que je porte puisse parvenir au destinateur.
Et alors, dites-nous, quel message vous voulez, quel est le message que véhiculent vos chansons? Dites-nous voir.
Ce que je dis dans mes chansons, oui, globalement, bon, c'est j'essaie de défendre certaines positions qui me semblent injustes, principalement vis-à-vis de la direction des pays, hein, de nos pays africains, quoi, sur la souffrance des populations. Et voilà. Et puis bon, j'ai ma façon de voir les choses que j'expose, quoi. Voilà.
Oui, c'est comme cette chanson sur le statut de la femme qui est très intéressante.
Pardon?
La chanson sur le statut de la femme qui est très intéressante.
Sur le statut de la femme?
Oui.
Ah oui, parce que nous les hommes, nous ne traitons pas bien les femmes, en fait. Hein.
Pourquoi vous dites
non,
ça?
Non, mais sérieusement, c'est quelque chose qui m'intéresse assez bien. Et ce que nous faisons subir aux femmes, si elles devaient nous faire subir, ça ne serait pas bien.
Ah, hein. Ouais. Quelle est votre meilleure expérience musicale?
Ma meilleure expérience musicale, j'ai eu à faire quelques concerts, un concert au Divan du Monde, mais surtout j'ai fait trois premières parties de concerts de Salif Keita au Burkina et ça c'est très très bien.
Alors Salif Keita sera dans nos murs la semaine prochaine ici dans le cadre du festival de jazz. Il sera ici à Ottawa donc
pour moi c'est le meilleur musicien africain.
Voilà, c'est un monsieur intègre. J'en conviens avec vous. J'ai eu l'occasion de le rencontrer maintes fois et je peux en témoigner. Ouais. Ah, écoutez, si vous permettez, on passe juste une pause musicale d'une chanson que vous avez intitulée Mandela.
Et oui.
On écoute ça juste le temps d'une quelques temps, ok? Juste une pause musicale. On vous écoute et on revient tout de suite avec la continuité de l'entrevue avec vous.
D'accord.
Alors, Monsieur King Solo, nous sommes de retour avec vous. La petite de la chanson Nelson Mandela. Pourquoi vous avez intitulé cette chanson Nelson Mandela? Dites-nous voir.
Nelson Mandela, sincèrement, je pense que si tous les chefs d'État africains, tous les dirigeants africains, tous les dirigeants noirs pouvaient prendre exemple sur ce monsieur, l'Afrique ne serait pas dans cet état, quoi. Vous voyez? C'est okay. Simplement pour dire ça. Parce que je pense qu'il a monté la voie, il s'est battu, il a essayé d'amener, donner la liberté à son peuple, quoi. C'est ce que nous devons faire en Afrique. C'est un exemple à suivre.
Voilà.
Quand j'en parle, j'en ai la chair de poule parce que ça me tient beaucoup à cœur.
Mm-hmm. Alors, on écoute une autre chanson qui vous est très, très particulière. Et si vous permettez, on l'écoute pour une minute hein, et on revient. On fait des commentaires avec ça.
Kambeleba.
Ok. D'accord.
Come on.
Alors, on vous rappelle qu'il est 7h24 ici, 7h24 à Ottawa, 13h24 en France, hein, oui, c'est ça.
Quelque chose comme ça.
13h24 en France, à Paris.
13h24.
Voilà, donc la prochaine question, c'est Bruno qui vous la pose.
Donc, on vient d'écouter en fait Kambeleba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette chanson?
Kambeleba, c'est un peu un terme imagé, j'appelle Gentleman. Et gentleman, ça parle de tous ces messieurs qui se disent assez intelligents. Ils sont dans les bureaux bien cravatés, bien assis derrière. Et lorsque la population vient les voir pour certains problèmes, ils se permettent de les escroquer, hein, escroquer des fonds, ainsi de suite. C'est des gens qui sont partis à l'école pour apprendre les bonnes manières afin d'escroquer les autres au lieu de les aider. Voilà.
Vous parlez
Donc, on les voit au milieu de la foule. Ils sont très beaux, très malins, ainsi de suite. Voilà. Et je vous en prie sérieux. Alors que dans le comportement normal de tous les jours, lorsqu'il s'agit de rendre le service à la population, c'est vraiment des beaux salauds. Excusez-moi du terme. Voilà. Kambeleba.
Kambeleba, c'est ça.
C'est,
alors, c'est en quelle langue, dites-nous?
C'est en langue Djula.
En langue Djula.
Djula ou Bambara.
Djula et Bambara, voilà.
Ouais.
Et pourquoi vous avez pensé nécessaire de chanter pour ces gens-là?
J'ai pas bien compris.
Pourquoi vous avez pensé nécessaire de faire une chanson juste pour marquer, pour identifier ces gens-là?
Oui, parce que ce comportement, c'est une fréquence. Et même encore aujourd'hui au Burkina Faso, c'est la même chose, hein, pas qu'au Burkina, quoi. Voilà. C'est un comportement qui revient, c'est récurrent. Chaque fois, ceux qui sont dits intelligents, en principe, ils partent à l'école. On les apprend de les bonnes manières de gouverner, entre guillemets. Mais ce qu'ils apprennent, ils détournent cela. Hein. Et encore aujourd'hui, c'est ça. Et voilà pourquoi l'Afrique est en retard quelque part.
Mmh. D'accord. Vous avez failli dériver sur la dernière question qui les règle dans l'émission. Mais juste avant ça, peut-être pour une réaction ou un commentaire. Diendéré, on le connaît tous, vient d'être honoré à Paris, en fait. Est-ce que commentaire, réaction ou on laisse... moi, j'assume mes termes. C'est un assassin. Lui-même le sait. Il a fait un travail... détestable. Mm-hmm. Commentaire, réaction face à cet assassin que la France
aussi,
se permet
étonné,
aujourd'hui.
J'ai vu ça aussi. Je ne comprends pas. Il y a une forme de traîtrise au niveau de la France, quoi. Et puis je pense qu'on veut enterrer Sankara un peu comme ça trop tôt. C'est pas juste.
Honte à la
c'est
France.
C'est pas juste du tout. C'est pas juste. Et ça me révolte.
Oui. Mm-hmm.
Ça me révolte, mais complètement ça me révolte. C'est, on n'a pas le droit de faire ça à un peuple. Vous voyez, c'est pas qu'au Burkina, je veux dire. Sankara concernait toute l'Afrique et pratiquement tout le peuple noir. Et il arrive, c'est révoltant, c'est très révoltant d'enterrer ça comme ça, quoi.
Voilà, écoutez, nous sommes comme ça d'entrée de jeu dans notre rubrique, c'est vous qui le dites.
Mmh.
Alors moi, je vais poser une question. En octobre 2007, nous avions, parce que vous parlez de Sankara, nous avons une entrevue avec l'ambassadrice du Burkina Faso ici au Canada. Et nous lui avons posé la même question au sujet de l'assassinat de Thomas Sankara. Et sa réponse a été la langue de bois. Selon vous, qui a tué Thomas Sankara 21 ans ou 20 ans après?
Je pense qu'on a déjà eu la réponse et on sait qui a donné les ordres.
Selon vous, qui a
selon
tué...
moi.
Oui.
Mais actuellement, on peut pas. Ils essaient de tout perdre. Hein. Ils essaient de tout paumer. Il y a soi-disant plusieurs personnes, mais bon, là, le truc serait quoi? Il y a la justice. Hein. La justice est la seule à détenir la vraie, la réalité et la vérité de la chose, quoi. Et c'est ce que nous devons porter à la connaissance de la population. Vous voyez?
Mm-hmm. Alors,
il y a des commanditaires. Ça, au moins, c'est connu. Si on connaît les commanditaires, on saura qui l'a fait. Vous voyez?
Mm-hmm. Alors, et ma deuxième question pour terminer. Selon vous, où devraient vivre les intellectuels africains? En Afrique ou en dehors du continent?
J'ai pas compris.
Selon vous, les intellectuels africains, où devraient-ils vivre? En Afrique ou en dehors du continent?
Je suis concerné. Vous savez, moi, j'ai une licence, une maîtrise et un diplôme d'ingénieur en microscopie analytique. Je peux dire que je fais partie des intellectuels africains.
Voilà.
Ce qui est arrivé, moi j'étais venu ici par exemple pour faire un diplôme d'ingénieur afin d'ouvrir un laboratoire. Mais ceux qui devaient ouvrir ce laboratoire ont été assassinés. Hein, c'était deux directeurs d'université. Sessouma, qui était un Sankanaïs entre autres, et un autre ministre, Ouédraogo aussi, ils ont été tous assassinés. Partant de l'HUSLA, le laboratoire n'a jamais été ouvert. Mais sinon, aujourd'hui, les intellectuels appliquaient notre place en Afrique, quoi. Notre place en Afrique.
Voilà.
Mais ceci dit, il est pas mal. La diaspora aussi a sa, voix, a son rôle à jouer.
Oui.
La diaspora a son rôle à jouer. Hein.
J'en conviens avec vous.
Il faut une forme d'opposition aussi à l'extérieur.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas si Bruno, un mot, une dernière question pour la fin, ou pour vous laisser partir. Bruno?
Il n'y a pas de question. Merci, Solo, d'avoir participé à notre émission. Et puis, merci d'avoir participé à notre émission. Et j'espère qu'il y aura une nouvelle génération consciente grâce aux chansons, grâce aux nouvelles, et qui sauront apprendre que l'Afrique doit vivre libre et heureuse.
Tout à fait, je suis entièrement de cette partie. Et nous devons tout faire pour que ce soit ainsi.
Voilà.
Je vous remercie de m'avoir contacté.
C'est nous qui vous remercions, surtout à l'heure, à la journée de la musique. On sait que c'est toutes les rues européennes sont bourrées de beaucoup de festivités. J'en connais.
Ben oui, ce soir, on va s'amuser.
Voilà. Écoutez, merci pour la 4 procès. Bonne fête de la musique. Et puis, c'est toute l'Afrique à Ottawa qui vous dit merci d'avoir participé à l'émission Afrique Plus.
Et je remercie toute l'Afrique à tous les frères. Battez-vous, les gars. Baissez pas les bras et on est tous ensemble.
Nous sommes ensemble. Merci, au revoir.
Allez, ciao, ciao, merci, bye.
Où vous serez exposé au soleil que génère la bonne musique d'Haïti, apportée par les groupes musicaux d'ici et d'ailleurs, mais aussi par les meilleurs DJ de la région. Plaques, domino, show de danse, jeux gonflables pour enfants, activités sportives, bref, une vraie ambiance de plage. Le samedi 19 juillet de 2h à 10h PM à l'île Pétri dans le secteur Orléans. Initiative de Kobi Outaouais, représentée par CHIOFM.
Voilà, vous écoutez CHOFM de la France. Nous sommes à Genève. Nous disons bonjour à Monsieur Jules Bagalois. Monsieur Bagalois, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous allez nous parler de. Vous êtes rédacteur pour le bulletin d'analyse et d'information du groupe de réflexion sur l'Afrique et spécialement sur la République démocratique du Congo. Vous avez un doctorat en sciences économiques et sociales. Donc, votre domaine d'étude, ce sont d'études de développement.
Oui, c'est ça, oui.
Alors, et les gens se demandaient, le Swahili est-elle une langue d'occupation? Le Swahili est-elle un danger pour la République démocratique du Congo? Voilà la raison pour laquelle nous vous avons à notre émission ce samedi 21 juin 2008. Alors, pour commencer, donnez-nous voir, quelle définition donnez-vous au terme suivant, ethnie et langue?
Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de votre émission et de votre radio. Merci de m'avoir invité. Et alors, pour faire vite, ethnie et langue, on peut définir une ethnie comme un groupement naturel caractérisé par des faits communs, notamment somatiques, linguistiques ou culturels, et aussi les sentiments d'appartenance de ses membres. Je vais vite noter que l'ethnie ou le concept d'ethnie s'oppose à celui des races qui, entre parenthèses, ce n'est pas un concept scientifique, donc s'oppose à la race par son caractère non spontané, non biologique et surtout son contenu sociologique et psychologique. Donc, les concepts d'ethnie se réfèrent à une réalité beaucoup plus sociologique, sociale et psychologique. Quant à la langue, effectivement, vous avez vu que j'ai dit que les linguistiques fait partie intégrante de l'élément ethnique pour différencier différentes ethnies. Alors, on peut appeler, entendre par langue, un système d'expression verbale de la pensée et qui comporte notamment un vocabulaire, une grammaire définie, et tout ceci relativement fixe. En ce sens qu'il constitue d'une certaine manière une institution sociale durable qui s'impose aux habitants d'un pays ou d'un espace géographique et qui demeure presque complètement indépendant de leur volonté individuelle. Voilà ce que je pouvais dire sur ces deux concepts.
Tout à fait. Et il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que le Swahili est la plus importante langue bantoue et la langue comptant le plus grand nombre de locuteurs, langue maternelle et langue seconde de l'Afrique noire.
Effectivement, le Swahili a autour de 60 000 locuteurs, 60 millions locuteurs entre l'Afrique orientale jusqu'à à l'Afrique australe et une grande partie, la moitié de l'Afrique centrale et particulièrement, parce qu'on va parler du Congo aujourd'hui, le Swahili est la langue majoritaire, disons-le, en République démocratique du Congo, où 60% de la population, 60-70% de la population en parle.
Et le Swahili est aujourd'hui la langue africaine la plus enseignée dans le monde, même apparemment.
Effectivement. Voilà. Quand on regarde les programmes des universités américaines qui s'occupent des questions africaines, des universités anglaises ou néerlandaises, pour ne citer que celles-là, et certainement aussi au Canada, on voit très vite que les langues comme le Swahili viennent en tête, et aussi les langues, une autre langue, je pense, les langues de l'espace mandingue à l'Afrique de l'Ouest, donc, parce que c'est effectivement, elles sont les plus parlées en Afrique.
Dites-moi, mon deuxième point, Mobutu Sese Seko, il y a quelques années, parlait d'authenticité. Et selon vous, en parlant de langue, pour être un vrai, entre guillemets, un vrai Congolais, il faut parler quelle langue? Lingala, Kikongo, Chiluba ou Swahili? Dites-nous voir.
Mais votre question est vraiment, elle est très difficile. Mais je dois dire que dans le cas du Congo, on ne peut pas utiliser les quatre grandes langues que vous venez de citer là pour dire que c'est ça qui fait l'identité congolaise, c'est ça qui fait qu'on devienne congolais ou pas. Parce que si on faisait tout simplement de la sociologie et de l'anthropologie politique actuelle de la réalité congolaise, on voit très bien que l'identité congolaise n'est pas, il n'y a pas un seul groupe linguistique qui serait majoritaire pour faire que sa langue devienne la langue qui doit être considérée comme la seule langue nationale. De ce fait, l'identité congolaise ou l'identité linguistique congolaise, elle est le mixage de ces quatre langues et d'autres 50 langues de moindre importance.
langues dont on ne parle pas. Mm-hmm. Et je n'aime pas qu'on dise qu'elles soient des dialectes, mais il y a d'autres langues. Par contre, ce qui fait l'appartenance, me semble-t-il, au Congo, et là, je vais rapidement ouvrir une petite parenthèse, je ne parle pas de la question de la nationalité. Mm-hmm. Et donc, qu'on ne me comprenne pas très mal, je ne dis pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Voilà. Ça, c'est notre débat.
C'est mais important. Dit, oui.
La langue comme élément, les trois, quatre langues-là ne sont que des marqueurs identitaires. C'est-à-dire que si vous me rencontrez à Ottawa et que je parle swahili, vous allez à première vue dire, mais est-ce que vous ne venez pas du Congo? Parce que là, on parle swahili.
Oui,
ceci étant, pour être congolais, me semble-t-il, certainement, il faut connaître, on souhaiterait qu'on parle une de ces langues. Mais que fait-on des Congolais de la diaspora, des fils des Congolais de la diaspora?
Voilà,
est-ce qu'ils ne sont pas congolais parce qu'ils ne parlent pas une de ces langues du Congo? Et pourtant, je veux dire que être congolais, c'est adhérer à un certain nombre de valeurs qui fondent l'identité congolaise et la réalité congolaise comme société politique. C'est adhérer à la volonté de vouloir construire un avenir commun, pacifique et juste ensemble. Et d'ailleurs, je vais peut-être rapidement finir en disant que la devise du Congo, c'est paix, justice, travail. Et il me semble qu'être congolais, ce n'est pas seulement parler ces quatre langues, mais c'est adhérer au contenu et à la portée réelle qu'exprime cette devise.
Voilà.
Paix, justice, travail. C'est à ça que je
voilà. On rappelle à l'auditoire que nous parlons avec monsieur Jules Bagalois. Vous êtes en direct avec nous depuis Genève et que vous êtes rédacteur pour le bulletin d'analyse et d'information du groupe de réflexion sur l'Afrique et en particulier
et le Congo RDC.
Et les
bulletins s'appellent Critique africaine.
Critique africaine. Alors, mon collègue ici en studio, Bruno, a une question pour vous. Bruno, vas-y.
S'il vous plaît, oui.
Lorsque vous nous parlez de paix, justice et travail comme devise nationale,
oui.
Pensez-vous qu'actuellement cette devise est toujours en vigueur ou elle est fortement malmenée?
Madame, cher ami, bon, vous savez, l'actualité étant ce qu'elle est, elle est très mal menée, je dois vous avouer, hein, parce que ça fait quand même 12 ans que le Congo est victime d'une guerre, des guerres d'agression des pays voisins, et puis des guerres internes, des rébellions créées par ces agressions extérieures, mais aussi des conflits et des situations déplorables créées par une élite politique arriviste qui ne pense vraiment qu'à ses poches et pas aux intérêts supérieurs de leurs compatriotes, de la nation congolaise. Et c'est une réalité. Ceci étant, je dois dire aussi qu'aujourd'hui, peut-être, on peut encore, si on fait, je suis sociologue, et si on fait de la sociologie du Congo de ces 12 dernières années, on peut dire, malgré que la situation reste assez déplorable, on peut dire que peut-être on retrouve la paix difficilement, mais doucement. Il y a 4 ans, c'était pas terrible, mais aujourd'hui, difficilement, avec l'aide des amis, des pays africains, la solidarité africaine a joué, de quelques amis extérieurs du Congo, et on s'achemine vers le retour à la paix. Et c'est ce qui est souhaitable. Mais là encore, c'est aux Congolais à eux-mêmes de s'approprier d'abord la devise, de se la réapproprier, en sachant qu'ils ne peuvent rien construire de durable et de bon que s'il y a la paix, et la justice et le travail. Donc, voilà.
Voilà. Donc, pour continuer, M. Jules Bagalois, mon troisième point, pourquoi, selon vous, certains Congolais qualifient le swahili de langue d'occupation? Que pouvons-nous lire entre les lignes dans une déclaration comme celle-là?
Oui. Merci pour la question. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, mais on ne va pas toutes les détailler ici. On fait un peu de l'histoire récente. Je pense que quand la première agression contre le Congo, la République démocratique du Congo commence et en
96,
les pays voisins de l'Est, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et tous ceux qui les soutiennent, les milices extérieures éthiopiennes et érythréennes, parce que c'est tout un conglomérat vraiment des brigades africaines qui
qui font sur le Congo vont se présenter comme étant une partie des populations de l'Est du Congo qui parlent Swahili. Et je dois avouer que la propagande occidentale qui était derrière les groupes d'intérêts occidentaux commerciaux, miniers, qui a financé d'ailleurs ces guerres, vous le savez, ce n'est plus un secret,
oui.
Et vont utiliser tous les médias internationaux à l'FS pour dire que non, c'est une guerre ethnique. Encore cette sempiternelle et fausse explication qu'on avance dans les conflits en Afrique, comme si nos ethnies étaient des ethnies qui ne sont là que pour se haïr. Et voilà, on a présenté que ce sont des Banyamulenge, un petit groupe ethnique du Congo qui ne comptait que 50 000 personnes. Et on s'est rendu compte qu'avec une armée de 200 000 personnes qui fondaient au Congo, l'argument ethnique de présenter ce petit groupe Tutsi Banyamulenge du site Kivu ne marche plus. Alors on a dit, ben, ce sont les Swahilifones en fait. C'était un grand. Donc les Swahilifones avaient parlé que ce sont les Swahilifones, les gens qui parlent Swahili, avaient l'avantage de montrer que c'est une partie du Congo, donc on régionalisait les conflits, une partie du Congo, tout l'Est qui s'opposait à tout l'Ouest du Congo. Et cette logique a été entretenue, ce discours a été entretenu aussi par les chefs congolais qu'on va prendre pour masquer toute cette agression, Laurent Désiré Kabila, jusqu'à arriver à Kinshasa, disant non, c'est nous, les gens de l'Est, qui avons été brimés sous le régime Mobutu, nous aussi, d'une certaine manière, nous faisons notre revanche. Donc, on a entretenu l'idée d'un conflit de type régional, intra-régional au Congo. Mais la réalité a montré que ce n'est pas vrai. Maintenant, je reviens à votre question encore. Aujourd'hui, on s'est rendu compte aussi que à Kinshasa, ceux qui prennent le pouvoir sous le président Kabila père, ce sont des généraux ougandais, burundais, tanzaniens et d'autres, et qui ne parlent que Swahili. Et donc, pour les citoyens moyens de Kinshasa, la capitale du Congo, qui compte quand même 10 millions d'habitants, on va commencer à entretenir l'idée que non, parce que c'est souvent à Kinshasa, les gens ne savent pas que ce sont des, ils n'ont pas des éléments pour voir que ce sont des soldats des pays étrangers. On va dire, ah oui, mais ce sont des gens de l'Est du Congo, qui parlent Swahili, et ils viennent nous occuper. Parce que ces gens-là, qui parlent Swahili à Kinshasa, et qui sont dans ces armées étrangères, vont commettre à Kinshasa aussi des pires exactions qu'on n'avait jamais vues. Et donc, d'une certaine manière, l'ignorance de la réalité des acteurs du conflit va faire que un certain nombre de compatriotes congolais vont penser que ce sont leurs compatriotes de l'Est qui parlent de Swahili, qui les occupent. Et donc, il y a cette idéologie de l'occupation des Swahilifones, et donc que les Swahili deviendraient les langues d'occupation au Congo.
Voilà.
Le
Swahili a connu des grandes extensions à l'intérieur du continent africain, et retenons que c'est dû principalement à quatre facteurs essentiels. La traite des esclaves menée par les Arabes, suivie de l'islamisation des populations locales, la colonisation européenne, surtout allemande et britannique, suivie de la christianisation des populations locales, de la mainmise indienne sur l'essentiel du commerce local, et le quatrième point, le dernier, de la politique linguistique des États indépendants, Tanzanie, Kenya et tous les autres de la sous-région dans les Grands Lacs, qui ont voulu se doter d'une langue africaine concurrentielle avec l'anglais ou le français pour le cas de, par exemple, du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Alors, le quatrième point, le Swahili et les Swahilophones, si vous permettez l'expression, représentent-ils vraiment un danger pour l'intégrité et la sécurité de la nation congolaise, voire de la sous-région?
Mais pas du tout. Alors là, je ne serais pas du tout d'accord avec vous, parce que si on prenait cette logique-là, si on raisonnait comme ça, ça signifierait qu'on veut dire que 60% de la population congolaise n'est pas congolaise. Et ça serait dire que une grande partie des Congolais sont des étrangers, c'est leur propre pays. Et ça serait dangereux.
Oui.
Voilà. Et l'autre part, c'est au
contraire, on doit considérer, et là je me place aujourd'hui dans une perspective d'unité africaine. Moi, je suis un panafricaniste convaincu.
Oui.
Et aujourd'hui, on voit que l'Union africaine travaille pour favoriser beaucoup plus l'unité de tous les continents. Alors, le swahili, qui est une des langues déjà qui n'est pas, si on quitte l'échelle congolaise, où elle est déjà très très importante et est un élément limité du pays. Alors, elle constitue aussi un vecteur, une langue de communication très importante dans une grande partie de la population africaine. Donc, vous comprenez que on peut quitter facilement le Kenya jusqu'au Mozambique et ne pas se retrouver dépaysé parce qu'il y a, on peut communiquer dans la même langue. Il y a une langue qui nous unit et dans laquelle on peut échanger.
Jusqu'en Afrique du Sud.
Moi, je pense que en allant vers une unité linguistique qui ne péjore pas notre diversité linguistique et culturelle, qui est une richesse qui existe, mais si c'est le swahili comme langue d'échange qui nous permet facilement d'échanger. Et je pourrais aussi parler du Wolof en Afrique de l'Ouest, oui. et d'autres langues, et ça nous permettrait de consolider l'unité africaine et sur tous les plans, au lieu d'utiliser, continuer d'utiliser à tout bout de champ et dans tout les langues étrangères. Moi, je suis très gêné, oui. Je dois avouer, quand je parle à un Africain et en français, et je me dis, mais est-ce qu'on n'a pas autre chose à nous dire?
Oui, c'est vrai.
Vous voyez, quand je rencontre des amis sénégalais, parce que je connais un peu du Wolof, et que je peux parler le Wolof avec, j'ai dit, ben oui, il y a des choses qu'on peut se dire entre Africains, sans forcément que je parle le français, que forcément, je ne maîtrise pas toujours bien, parce que parler dans la langue d'autrui n'est pas facile pour entrer dans ce schéma mental et les nuances que ça représente.
Tout à fait.
Voilà ce que je voulais dire.
Alors dites-moi, quels sont les intérêts qui sont en jeu et à qui cela profite de qualifier dans le swahili comme langue d'occupation selon vous?
Il y a des enjeux politiques. L'enjeu est essentiellement politique. Il me semble que aujourd'hui, certainement, je vais revenir aux dernières élections qui se sont passées au Congo. On ne donnait pas cher au nouveau président Kabila, Joseph Kabila, qui est là.
Oui.
Voilà. Donc, ses adversaires n'ont pas aussi tenu compte, n'ont pas fait une analyse, me semble-t-il, sociologique et démographique de la réalité congolaise. Alors, ils se sont concentrés, et notamment Jean-Pierre Bemba, s'est concentré à faire la campagne autour de Kinshasa et d'une certaine manière dans quelques grandes villes. Alors, Jean-Pierre Bemba et les autres opposants à Joseph Kabila ont oublié à faire la campagne à l'est du Congo où était concentré 70% de la population congolaise et donc potentiellement 70% des électeurs. Et Joseph Kabila a fait à la fois campagne à l'est et à l'ouest et à l'est, et donc Joseph Kabila c'est le seul candidat de poids qu'on a vu à l'est, et donc l'est a voté pour Joseph Kabila parce que lui il l'a vu comme poids lourd qui est venu le voir, alors que Jean-Pierre Bemba n'y arrive que dans les derniers mois avant les élections. Donc l'est, il faut le dire, a beaucoup joué
alors,
dans la victoire présidentielle de Joseph Kabila.
Voilà.
Alors, les ennemis politiques de Joseph Kabila ou ses adversaires politiques, on peut utiliser le terme qu'on veut, en tout cas, pour lui créer des ennuis, alors il bricole un peu tout ça en disant oui, l'Est, c'est les swahilifones, ce sont les swahilifones qui nous ont agressés, qui ont agressé le pays. Donc, on veut assimiler tout l'Est comme s'ils étaient, ils étaient constitués de tout simplement un territoire occupé par les pays voisins, et donc Kabila serait leur agent. Et il y a en fait ça, c'est ça l'enjeu qu'il y a autour de ces discours-là. Je ne vois pas autre chose, parce que tout le monde sait depuis longtemps quand même que le swahili c'est une langue congolaise et qu'il se parle depuis Lubumbashi jusqu'à Aru, et puis depuis Bukavu aussi on quitte la frontière avec les Rwanda jusqu'au Kasai, au Mbujimayi.
Donc, j'ai deux dernières questions à vous poser rapidement. J'insisterai que vos réponses soient brèves.
Oui.
Ok, voilà. Donc, en terminant, quels sont quelles sont, selon vous, les perspectives d'avenir pour le Swahili, s'il y a lieu de prendre des mesures juridiques pour protéger tout le monde, la langue et les personnes?
Bon, les perspectives juridiques, j'en verrai une, c'est que nos pays, et là, je vais dire pour tous les pays, que nous, Congolais, que nous, Africains, nous ayons des politiques pour encourager nos langues nationales, mmh. nos langues, tout simplement. Donc, je suis désolé quand même de voir que il n'y a pas une grande politique, il n'y a pas tout simplement pas de politique aujourd'hui congolaise pour enseigner vraiment de manière efficace les quatre langues nationales de que vous avez citées au début, les Kikongo, les Chiluba, les Swahili et les Lingala. Voilà. Donc il me semble, si nous voulons construire des sociétés où nous sommes nous-mêmes aussi, cela passe aussi par que nous parlons le plus possible nos langues, que nous enseignons nos langues, que même à l'université le Swahili soit enseigné. Ça fait honte quand même que au Congo on n'enseigne pas le Swahili à l'université, mais qu'on vient on l'enseigne à Harvard, à Ottawa, à Genève, le Swahili. À Londres. Voilà.
Écoutez, pour vraiment terminer, nous arrivons à notre rubrique, c'est vous qui le dites. Alors on va vous poser une seule question. Selon vous, y aurait-il un rapport direct ou indirect entre la situation de la langue swahili et l'arrestation à Bruxelles en mai dernier en Belgique de Jean-Pierre Bemba?
Non, pas du tout. Alors là, ça n'a rien. Jean-Pierre Bemba a été arrêté tout simplement pour ses crimes qu'il a commis depuis qu'il est. Certains de ces crimes qu'il a commis dans son parcours, là, des miliciens et des rebelles alliés à l'Ouganda dans l'occupation du nord-ouest du Congo. Et donc, on ne peut pas. Non. Et ce n'est pas. Il ne faut pas que les gens commencent à faire de l'amalgame, quels sont les Kabila, quels sont les pouvoirs des Kabila ou les gens de l'Est qui ont fait arrêter Jean-Pierre Bemba. Non. Jean-Pierre Bemba, nous savions que son mandat courait depuis très longtemps.
Voilà.
Et tout ce que moi je peux dire, c'est sa naïveté. Comment Jean-Pierre Bemba pouvait se retrouver à Bruxelles ou même en Europe, tout en sachant qu'il était sous le coup du mandat, des mandats d'arrêt international. Donc, il pensait que tout le monde va le laisser dans l'impunité. Il a été victime de sa propre naïveté.
Voilà. Donc, c'est M. Jean-Jules Bagalois. L'interview va s'arrêter là. C'est toute l'Afrique qui vous remercie à Ottawa.
Je sais pas si vous remercie beaucoup.
On vous donne 10 secondes pour dire un mot aux Africains qui vous écoutent.
Oui.
On vous donne 10 secondes pour dire un mot à ce
Le dernier mot de la fin, c'est que je suis en train de regarder aussi le programme de suis devant l'ordinateur. Et moi, je vous encourage beaucoup à persévérer dans le travail que vous faites parce que ça permet de donner une autre image de l'Afrique, de ce que l'Afrique peut faire dans le nouveau contexte mondial et de son apport. Parce que là, je vais finir avec la phrase de que j'aime bien de Léopold Sédar Senghor, dans cette civilisation du donner et du recevoir. Nous pouvons mieux recevoir que si aussi nous apportons quelque chose, que si nous donnons ce que nous avons, en toute simplicité et vérité. Voilà, je vous remercie et bon week-end.
Voilà, Monsieur Jules Bagalois, c'est toute l'Afrique à Ottawa qui vous dit merci. Vous êtes rédacteur du bulletin d'analyse et d'information du groupe de réflexion sur l'Afrique et la RDC en particulier. C'est l'Afrique à Ottawa qui vous dit merci.
Merci beaucoup.
Et on reste en contact. Au revoir.
Merci beaucoup. Bon week-end.
Et bonne fête de la musique à Genève.
Merci beaucoup. Je vais y descendre tout de suite là.
Allez, au revoir.
Irben Bango, c'est vrai que tu m'as mérité. J'aime ta tabou.
Du 20 juin au 1er juillet, TD Canada Trust présente le Festival international de jazz d'Ottawa. La série studio du Centre national des arts vous présentera chaque soir à 22h30 différents artistes internationaux. Ne manquez pas votre chance de venir voir Nathalie Nadon, l'Orchestre des Pas Perdus et beaucoup plus encore. Ces concerts sont tous inclus dans votre passeport pour le festival. Les billets sont en vente au kiosque du festival situé au Centre Rideau, City Warehouse, Compact Music, Metro Music, Sounds Unlikely et le Ottawa Folklore Center. plus d'informations, veuillez visiter le ottawajazzfestival.com.
Le party le plus multiculturel de la région de la capitale. Tropical Fever. Tropical Fever, c'est tous les samedis à partir de 22h30 au M-Land Club, 90 Boulevard Grébert, à Gatineau. DJ Michel-Ange, DJ Ibrahim et DJ Karim pour un tour du monde tropical à vous donner la chair de poule. Tropical Fever, c'est votre ambiance zouk, compa, reggae, hip-hop, salsa, merengue, soca, coupé, décalé, zaiko et rumba. Tropical Fever, tous les samedis à 22h30, M-Land Club, 90 Boulevard Grébert, à Gatineau.
Le Cisco Ottawa Blues Fest, présenté par Ottawa Citizen, vous amène le World Gospel Jam 2008, samedi le 12 juillet au Parc des Plaines, Le Breton. Mettez en vedette l'artiste Holy Hip Hop, Kenton Jones, ainsi que Ricky Dillard et la chorale UG de Chicago. Mettez aussi en vedette Prosper GPM, Sons of Thunder, Danny Eason, New World Sun et Pasteur Shirley Caesar. Des quantités limitées de billets pour cet événement seront disponibles avant le 5 juillet pour le prix initial de $30 au Sears Storehouse, Islander, Tropical Gardens ou par téléphone.